Bien, ne faites rien que nous ne ferions pas. Ciao.
Heures sur Europe 1. Et le journal, c'est avec vous, Mel. Bienvenue à bord.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Europe 1 Nuit. Maëlle Hassani.
Ravi de vous accompagner en ce jeudi soir. À la une de votre journal, la thèse du tir accidentel est écartée dans l'enquête sur la blessure par balle de Kenji Girac. Le procureur de Mont-de-Marsan a livré de très nombreux détails devant la presse cet après-midi. Le chanteur a en fait voulu simuler un suicide après une dispute avec sa compagne, alors qu'il était fortement alcoolisé. Un grand discours sur l'Europe à la Sorbonne, un exercice auquel s'est plié Emmanuel Macron aujourd'hui pour la deuxième fois depuis son arrivée à l'Élysée. Et le président de la République s'est montré alarmiste sur les dangers qui guettent le vieux continent. Dans ce journal également, la première condamnation de l'ancien producteur star d'Hollywood, Harvey Weinstein, annulée par la cour d'appel de New York. Et puis l'invité politique, la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, répondra aux questions de Céline Géraud et Louis de Ragnel.
Europe 1.
L'Europe peut mourir. Cette formule choc est signée Emmanuel Macron. Le président de la République a prononcé ce matin son deuxième discours de la Sorbonne, après une première version très ambitieuse pour l'Union en septembre 2017. Mais cette fois, le chef de l'État s'est montré alarmiste à l'approche des élections européennes. Les dangers qui guettent le vieux continent ont été énumérés devant les 500 convives présents. Retour sur cette prise de parole avec Alexandre Chauveau.
Deux heures de discours et un maître mot pour Emmanuel Macron, la souveraineté européenne, défense, industrie, énergie, alimentation. Le chef de l'État appelle l'Europe à sortir de sa naïveté face à l'agressivité économique et militaire des puissances adverses. Les règles du jeu ont changé, affirme le chef de l'État, qui met en garde ses partenaires.
L'attaque contre les démocraties libérales, contre nos valeurs, contre, je le dis dans ce lieu de savoir, ce qui est le substrat même de la civilisation européenne, une certaine relation avec la liberté, la justice, le savoir, se joue maintenant ou pas. Oui, nous sommes au moment de bascule et notre Europe est mortelle, simplement cela dépend de nous.
Réarmement du monde, risque de décrochage économique et remise en cause du modèle culturel occidental. Face à la multiplication des menaces, Emmanuel Macron appelle à la mobilisation des pays européens. Un message envoyé également aux Français, appelés aux urnes le 9 juin prochain, et ce, alors que la liste de la majorité présidentielle est en grande difficulté dans les sondages.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 est justement en vue des prochaines élections européennes. Les partis d'opposition crient à la campagne déguisée pour la liste Renaissance de Valérie Ayer, après ce discours de la Sorbonne. Certains réclament que les près de deux heures de parole d'Emmanuel Macron soient décomptées du temps réservé au camp présidentiel. Pour la tête de liste et président du RN, Jordan Bardella, le chef de l'État a pris le parti d'intervenir personnellement dans la campagne et devra en assumer les conséquences en cas de désaveu, a déclaré le favori des sondages en présentant son programme pour le prochain scrutin cet après-midi. Europe 1 vous en parlait dès hier, de cet adolescent de 16 ans, fiché S, interpellé en Haute-Savoie, car il préparait un attentat dans le quartier de la Défense pendant les Jeux Olympiques. Le suspect est toujours en garde à vue ce soir, le parquet national antiterroriste mène l'enquête. Mais dans la petite ville de Marigné, en Haute-Savoie, le temps s'est comme arrêté depuis cette nouvelle. C'est là-bas que le jeune radicalisé vivait. Noémie Loisel, vous vous êtes rendue sur place pour Europe 1. Rien ne portait à croire que cet adolescent avait un projet criminel.
Oui, j'ai pu parler avec quelques voisins du quartier. Ils décrivent cet adolescent de 16 ans comme un garçon très gentil, poli, assez timide et sans histoire. Comme beaucoup ici, l'un de ses voisins qui le fréquentait lorsqu'il était plus jeune est surpris d'apprendre la nouvelle.
Super gentil, très poli, pas de signe de violence, rien du tout. Vraiment un super gamin, très gentil, quoi. Sa famille est très gentille, dans le partage. Vraiment une famille normale comme la mienne, comme toutes celles présentes ici. Ici, c'est tellement tranquille, on n'a jamais eu de mauvaises surprises ou de soucis par rapport au voisinage, et d'autant plus par rapport à cette famille-là et ce jeune, quoi.
Aucun signe de radicalisation, selon les voisins. Ils m'ont également confié que ses parents étaient responsables, stricts avec leurs enfants. Dans ce quartier en hauteur de Marigné, où une dizaine de maisons sont regroupées, le jeune garçon avait pour habitude de jouer au foot avec ses amis. L'adolescent est actuellement en garde à vue. Il était suivi pour radicalisation islamiste. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont d'ailleurs retrouvé un serment d'allégeance à Daesh.
Noémie Loisel à Marigné, en Haute-Savoie, pour Europe 1. 1. Et un autre adolescent de 16 ans qui avait aussi planifié une tuerie de masse, mais à Antibes et sans lien avec la religion, a été mis en examen et écroué. Le suspect de nationalité turque présente des troubles psychiatriques. Des croix gammées ont été découvertes sur les murs de sa chambre lors d'une perquisition. Une très longue conférence de presse pour livrer de très nombreux détails sur les circonstances du tir qui a blessé Kenji Girac à Biscarros dans les Landes dans la nuit de dimanche à lundi. Le procureur de la République de Mont-de-Marsan a donné tous les détails de la journée et de la soirée du chanteur. Et la version initiale, celle du tir accidentel, est désormais totalement écartée. Stéphane Place, pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut d'abord savoir que l'artiste de 27 ans était très fortement alcoolisé au moment des faits.
Oui, dimanche dernier, Kenji Girac a beaucoup bu tout au long de la journée. Les analyses estimeront qu'il avait un peu plus de 2 grammes d'alcool dans le sang au moment du tir et révéleront aussi des traces de cocaïne. Quand il revient dans sa caravane en pleine nuit, le chanteur ivre se dispute avec sa femme parce qu'il a réveillé leur petite fille. Pas de violence, mais des mots. Après que sa compagne lui a dit qu'elle voulait partir, elle est dans sa chambre avec leur enfant. L'artiste, lui, dans le salon, prend l'arme qu'il a achetée quelques jours plus tôt. La suite, c'est Olivier Janson, le procureur de Mont-de-Marsan, qui la raconte.
Il ne dit plus que le coup est parti involontairement. Il a indiqué que, en fait, cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme, l'impressionner. Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il l'a entendu parler de départ. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur dans cette arme de poing comprenait des munitions ou pas. Il le croyait vide, dit-il, et c'est volontairement qu'il a inséré le chargeur, et c'est volontairement qu'il s'est tiré dessus.
Kenji Girac indique assumer ce qu'il a fait tout en le regrettant fortement et maintient qu'il s'agit d'une simulation de suicide. A précisé le magistrat, cette affaire, sur le plan judiciaire, devrait se terminer par un classement, a ajouté le procureur.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 en Gironde, où Kenji Girac est toujours hospitalisé ce soir. Selon le procureur de la République, il devrait mettre plusieurs mois à retrouver la pleine possession de ses moyens. Par ailleurs, les managers du chanteur ont déploré dans un communiqué les détails livrés par le magistrat sur la vie privée de l'artiste. La loi Vignal, entrée en vigueur en juillet 2022, est un franc succès. Elle permet de changer facilement de nom de famille. Avant cela, il fallait invoquer un motif précis. Et selon l'INSEE, plus de 144 000 Français ont effectué la démarche depuis, chiffre 3 fois plus élevé qu'avant la loi. Dans la majorité des cas, les personnes ont souhaité remplacer le nom de leur père ou de leur mère par celui de l'autre parent. Les conducteurs de métro et de RER en région parisienne mobilisés pendant les JO pourront toucher jusqu'à 2500 euros de primes. Un accord a été signé entre les syndicats majoritaires et la direction de la RATP. Pour toucher ce montant, les agents ne devront pas s'absenter plus de 4 jours entre le 22 juillet et le 8 septembre prochain. Au 5e jour d'absence, le montant de la prime retomberait à 1600 euros.
Europe 1 Nuit, Maëlle Hassani.
Sa condamnation en 2020 est considérée comme l'une des premières grandes victoires du mouvement MeToo. L'ancien producteur star d'Hollywood, Harvey Weinstein, sera rejugé prochainement pour viol et agression sexuelle. Le verdict rendu à l'issue de son premier procès à New York, il y a 4 ans, a été annulé par la cour d'appel. Anne Toulouse, qu'est-ce qui a poussé les juges à prendre cette décision ?
Cette cour, qui est la plus haute juridiction de l'État de New York, a décidé que le procureur avait outrepassé les limites de la procédure en autorisant le témoignage de plusieurs femmes sur des événements qui n'étaient pas en relation directe avec les plaintes déposées. C'est une pratique que l'on voit fréquemment dans les procès célèbres, par exemple dans ceux qui se déroulent actuellement contre Donald Trump. L'accusation veut ainsi démontrer que les faits jugés relèvent d'un comportement habituel de l'accusé. Dans son attendu, la cour d'appel de New York parle d'un abus du pouvoir discrétionnaire du procureur. Celui-ci ne manquait pourtant pas de témoignages directs, puisque des douzaines de femmes, dont des actrices célèbres, sont venues raconter les pratiques sexuelles auxquelles les avait contraintes l'un des plus puissants producteurs américains. Cela ne veut pas dire qu'Harvey Weinstein, qui est actuellement incarcéré dans l'État de New York, va être libéré, car une peine de 16 ans de prison l'attend en Californie. En revanche, la procédure annulée va être rejugée, ce qui signifie que l'un des procès les plus emblématiques des dérives d'Hollywood va recommencer à zéro.
Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, et un groupe de victimes d'Harvey Weinstein décrit cette décision de la Cour d'appel de New York comme démoralisante et profondément injuste. En France, le réalisateur Laurent Cantet est mort aujourd'hui à l'âge de 63 ans. Il était connu notamment pour son film Entre les murs, récompensé de la Palme d'Or à Cannes en 2008. Il souffrait d'une maladie mais travaillait sur un autre projet de film qui devait sortir en 2025. Le tourisme doit changer. C'est la conviction du maire de Venise, Louise qui s'exprimait aujourd'hui, jour de l'entrée en vigueur, de l'entrée payante dans sa ville pour les visiteurs d'une journée. Selon l'élu, il y a urgence à diluer les visites dans la cité des Doges, victime du surtourisme. Le ticket est fixé à 5 euros les jours de grande affluence. Vous écoutez Europe 1, il est 22h09. Place maintenant à l'invité politique. Céline Géraud et Louis de Ragnel interrogent la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot, quelques heures après le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne sur l'Europe.
Europe 1. Je suis ravie d'accueillir dans ce studio Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à bord. On va décrypter évidemment ensemble le discours sur l'Europe du président Emmanuel Macron. C'était ce matin à la Sorbonne. 7 ans après son premier discours à la Sorbonne, là aussi le chef de l'État a donc réédité l'exercice pendant plus de 2 heures. Quels enseignements peut-on en tirer? Louis de Ragnel, bonsoir.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
Vous êtes le chef du service politique et vous avez une première question pour Prisca Thévenot.
Oui, bonsoir Madame la Ministre. Alors donc, on a écouté très attentivement cet après-midi le discours du président. Il y a eu beaucoup de propositions. C'est un discours d'ailleurs de près de 2 heures, donc un petit peu long. Des propositions sur l'immigration, sur l'industrie, la souveraineté. Il y avait quasiment aucun sujet d'ailleurs qui n'a pas été évoqué. Il y a beaucoup de Français qui se posent la question, qu'est-ce qui fait que cette fois, réellement, vous allez faire ce qui a été avancé par le président ?
En fait, tout simplement parce que déjà les autres fois, donc en l'occurrence en 2019, sur la base du discours en Sorbonne de 2017, nous avons fait ce que le président de la République avait dit. En termes de défense, en termes de souveraineté alimentaire, sanitaire, industrielle, nous nous sommes avancés, nous avons réussi à relever des défis communs. On a beaucoup parlé sur ces plateaux et d'autres, par exemple pendant la Covid, nous avons réussi à surmonter la crise Covid grâce à notre capacité à agir en européen. Nous avons réussi à relancer l'économie suite à la Covid grâce à un engagement en européen. Nous avons réussi à nous mobiliser pour soutenir l'Ukraine grâce à un engagement européen. Nous avons aussi changé des sujets qui touchent au quotidien des Français et de nombreux foyers, notamment des parents, sur le numérique. On a commencé à avancer avec des lois sur le DMA, DSA.
Au discours d'Emmanuel Macron là, sur la politique migratoire, c'est vrai, et sur d'autres sujets, on a l'impression d'avoir déjà entendu plusieurs fois, et beaucoup de Français ont entendu plusieurs fois ces annonces, ces engagements, et du coup, forcément, ça peut créer un petit effet déceptif.
Mais vous savez, la Sorbonne, comme j'y étais ce matin, je m'interrogeais sur ça aussi, la Sorbonne, c'est le lieu des promesses tenues. Tout ce qui a été dit en 2017 par Emmanuel Macron en Sorbonne a été tenu, réalisé. Et nous devons continuer à aller plus loin.
Eh bien,
sur l'immigration, vous avez raison. Frontex, nous l'avons réarmé correctement pour pouvoir effectivement mettre des gardes frontières. Pour aussi mettre.
Aujourd'hui, les frontières de l'Union européenne ne permettent pas de protéger l'Union européenne.
Mais nous avons avancé.
Il y a rarement eu autant de flux migratoires.
Nous avons avancé. Nous avons lutté aussi contre les passeurs. Nous avons fait des interpellations en européen. Nous avons également débouté ceux qui étaient déboutés du droit d'asile. Ils ont été reconduits. Donc, je veux dire, nous devons continuer à y aller, mais vous savez, sans naïveté et en lucidité, on ne peut pas en permanence rejeter ou nier tout ce qui a été fait au cours des dernières années. C'est
alors
pas honnête.
Je voulais vous interroger sur une phrase du président et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Le président a dit tout à l'heure que, et il a mis en garde, il a dit qu'il y avait un risque que l'Europe puisse mourir. Qu'est-ce que ça veut dire dans les mots du président ?
Je crois qu'il n'y a pas besoin de chercher entre les lignes. Oui, l'Europe peut mourir. Et nous soyons très clairs, aujourd'hui nous avons quoi ? Nous avons des grandes puissances qui se réaffirment, nous avons des guerres à nos portes, sur notre continent, nous avons de grandes instabilités, des ingérences qui viennent bousculer nos démocraties occidentales. Et donc oui, en européen, nous devons pouvoir réagir et
donc
être dans...
Pour bien comprendre, l'Europe peut mourir en raison des menaces extérieures qui pèsent sur l'Europe, ou est-ce que, dans les propos du président, il fallait comprendre que certains partis souhaitent la mort de l'Europe?
Non, mais vous lisez dans mes pensées, j'ai exactement ça. Elle peut mourir aussi parce que oui, il y a des ingérences extérieures, parce qu'il y a des fragilités extérieures, et ça, je viens d'en parler, mais aussi, elle peut mourir en interne, d'elle-même. Et regardons ce qui s'est passé cette semaine. Au Parlement européen a été proposé un texte pour justement dénoncer les ingérences russes. Certains mouvements politiques français qui nous représentent au Parlement européen ont préféré aller à la piscine plutôt que de voter. Donc, et je vais vous dire de qui je parle du Rassemblement national. Donc je pense que oui, aujourd'hui, même au sein du Parlement européen, il y a des dangers. Et c'est pour ça que cette élection du 9 juin est fondamentale. C'est réellement un choix pour les 5, 10, 15 prochaines années.
Alors justement, dans les sondages, la candidate Valérie Ayé est loin derrière Jordan Bardella. Qu'est-ce qui cloche ?
C'est... Les sondages sont à regarder, je ne vais pas vous faire l'affront ici de vous dire que je ne les regarde pas et circuler, il n'y a rien à voir, bien sûr.
On ne vous croirait pas.
On les... Oui, et puis enfin, je ne vais pas commencer à dire ça. Non, les sondages, on les regarde. Maintenant, est-ce que ce sont les sondages qui nous mobilisent chaque jour au quotidien ? Non.
Enfin, on a fait de la politique. Sensation que le président vient à la rescousse aussi de la candidate et Valérie Ayé.
C'est pas parce que le président de la République, aujourd'hui, le 25 avril, a parlé d'Europe que ça a une symbolique autre que ce qu'il a fait depuis 2017. Depuis 2017, le président de la République est mobilisé sur le sujet européen. Il a été le premier candidat aux élections européennes à brandir deux drapeaux, le drapeau français et le drapeau européen. Il a été le premier à dire dans sa campagne pour les présidentielles en 2016, parler d'Europe et de la France. Il a continué inlassablement à le faire au cours des 7 dernières années, à différents moments. Et nous l'avons fait aussi dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Nous n'avons pas eu de cesse de continuer à avancer sur ces sujets.
Mais justement, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, quelle est votre explication ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle que de sondages, donc une photographie à l'instant T de ce que peut penser l'opinion. Comment est-ce qu'on explique, par exemple, que Jordan Bardella a un score qui est quasiment égal au double de celui de votre candidate Valérie Ayé ? Et je me souviens de la dernière campagne européenne. Votre candidate était bien plus haut dans les sondages.
Elle était à 10 points. On était aussi à 10 points.
Un peu plus.
Peu ou prou.
Mais vous savez, le RN n'était pas aussi fort.
Mais très bien, vous voulez qu'on compare les sondages, etc., sur les élections présidentielles, sauf alors de ma part, il y avait un certain candidat Zemmour qui devait exploser tous
bien
les scores.
Ce que je vous dis,
et je vous parle aussi en tant que militante.
Mettons de côté par exemple Valérie Ayé. Est-ce que c'est la question, ça veut dire que les Français aussi doutent de l'Europe ? Est-ce que vous n'avez pas été suffisamment convaincant pour expliquer qu'il fallait... Parce qu'on entend vos propos et de la majorité présidentielle, il faut plus d'Europe, il faut encore une fois que les Français fassent confiance à cette liste que vous encouragez, que vous soutenez, qui demande aux Français de faire un acte encore plus vers plus de soutien à cette Union européenne.
C'est plus qu'une liste, c'est un projet. On défend. On le défend aujourd'hui et on l'a défendu hier en 2017 et on continuera à le défendre. Et j'insiste vraiment sur ça, sur oui, nous nous mobilisons partout. Bien évidemment ici, et merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, mais aussi au quotidien, sur les marchés, dans des tractages, dans des porte-à-porte, en allant coller des affiches. J'y passe mes week-ends, j'y passe mes soirées, comme de nombreux militants et militantes. Nous sommes mobilisés pour convaincre, expliquer et vraiment le faire dans une complexité qui est nécessaire. Simplement être dans un discours de radicalité, c'est facile. Être aujourd'hui dans la nuance, c'est ambitieux, c'est courageux. Et c'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron aujourd'hui en rappelant que notre projet européen, nous le portons depuis 2017, nous y travaillons depuis 2017 et nous allons continuer à le faire, pas simplement dans un calendrier électoral, mais dans une ambition bien au-delà, pour 5 ans, 10 ans, 20 ans.
Des élections européennes qui sont quand même effectivement sous haute tension pour vous, parce qu'il y a Jordan Bardella d'un côté, on l'a dit, mais il y a Raphaël Glucksmann de l'autre, et on a vraiment la sensation que pour une fois, c'est la majorité qui est prise en tenaille.
Écoutez, moi j'ai pas l'impression que la majorité est prise en tenaille, j'ai plutôt l'impression que les Français sont pris en tenaille. Quand Raphaël Glucksmann nous explique en long, en large, en travers qu'il a tout fait pour l'Europe et qu'il est loyal à sa famille politique et loyal aux Français.
Il est séduisant,
il est séduisant. Ben, oui. Moi, je vais vous lire les votes qu'il fait. Et c'est peut-être ça qui est important aujourd'hui.
Ils sont à 80% les mêmes que ceux de votre groupe. C'est ce que Valérie Ayé a dit d'ailleurs.
Ben, moi, je vous dis, je les ai regardés les votes. Et ce que moi je vous dis, c'est que non seulement ils votent contre le texte comme le pacte asile-migration, contre le pacte de stabilité et de croissance, la loi climat, le plan en faveur de la propriété intellectuelle. Ils votent contre ces sujets qui sont importants pour les Français. Et en plus, ils votent contre son propre groupe politique auquel il appartient au sein du Parlement européen.
Mais donc comment
croire la parole de Raphaël Glucksmann quand, sur ces sujets-là précisément, sur lesquels il est en train de se prononcer en ce moment, en train de dire que c'est génial et qu'il faut avancer, il a voté contre hier au Parlement européen, et qu'en plus... Il n'a pas tenu sa parole de loyauté au sein du groupe auquel il appartient. J'interroge sa capacité à faire confiance à la parole de Raphaël Glucksmann.
Voilà pour cet entretien de la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot avec Céline Géraud et Louis de Raguenel. Un mot maintenant des marchés financiers. Net baisse pour le CAC 40, moins 0,93%, et une clôture à 8017 points du côté de Wall Street aux États-Unis. Clôture en baisse également, moins 0,98% pour le Dow Jones, moins 0,64% pour le Nasdaq. La météo désormais avec vous, Marlène Duret. Demain, un risque d'averse et quelques orages.
Oui, en fait, très peu de régions échapperont aux averses. Alors évidemment, selon les régions, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Les passages pluvieux seront plus ou moins marqués, plus ou moins nombreux. Et donc, le risque sera plus prononcé demain matin entre le Var, les Bouches-du-Rhône et les Cévennes. Prévoyez de bonnes pluies qui peuvent tourner à l'orage et ce temps instable et orageux va se décaler au fil des heures vers les Alpes du Sud. Et puis, on a une autre zone assez active à l'ouest du pays, donc dans l'après-midi cette fois. De nombreuses averses potentiellement orageuses devraient circuler entre le Périgord, le Poitou, les Pays de la Loire, la Bretagne, le Cotentin, avant de se décaler en fin de journée vers la région parisienne et la Haute-Normandie. Alors notez quand même qu'on aura droit à une amélioration au bord de l'océan Atlantique avec le retour progressif du soleil. L'après-midi sera beaucoup plus agréable que la matinée. Et au pied des Pyrénées, ce sera l'inverse. Les belles éclaircies du matin céderont la place aux averses. Quant aux températures, alors c'est mieux évidemment, plus de gel, en tout cas pour cette longue séquence de froid. Là, le gel, les gelées ne concerneront plus que les massifs. Quant aux maximales, elles seront comprises entre 12 degrés à Cherbourg et 19 à Ajaccio, avec généralement 13 à 16 degrés sur la moitié nord et 15 à 18 sur la moitié sud.
Merci beaucoup Marlène Duret. Vous écoutez Europe 1, il est 22h20. La libre antenne arrive en ce jeudi soir jusqu'à 1h du matin. Et le numéro, c'est le 01 80 20 39 21 pour parler avec Olivier Delacroix qui est dans ce studio. Bonsoir à vous.
Bonsoir mon cher Maël, comment allez-vous?
Oui, très bien, très bien. Et vous-même?
Vous êtes en forme?
Écoutez, plutôt oui.
Vous êtes très en forme. Ce soir, vous êtes en week-end en plus.
Eh oui, bah, vous dites tout, effectivement. Petit week-end de 3 jours.
C'est bien.
C'est de temps en temps.
Ça va vous permettre de vous reposer un peu.
Bien sûr.
Après une longue semaine de labeur. Et puis on se retrouvera lundi.
Mais avec grand plaisir. Bah, j'ai quand même à 23h et à minuit quand même.
Oui, et j'allais vous le dire. Voilà. Pas trop vite. Bon. Écoutez, rien à signaler dans le journal. J'ai entendu à un moment quelque chose. Weinstein qui va être rejugé à New York, c'est quand même. On marche sur la tête.
C'est l'un des deux procès, mais vous savez, c'est pas sur le fond, c'est sur la forme. C'est-à-dire qu'il y a
il fallait peut-être y réfléchir avant.
Il y a des ce qu'on appelle en France des vices de procédure qui ont été détectés lors du premier procès. Oui. Ce procès est donc annulé, la condamnation avec, et il sera rejugé. Maintenant, il reste en prison parce qu'il a été condamné dans un autre procès aussi pour viol agression sexuelle en Californie.
Voilà. Mm-hmm. Si vous voulez, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est de voir combien un homme qui devrait se cacher au fond d'un trou, au fin fond de sa prison, et ne plus la ramener, comme on dit, à grands coups de millions de dollars encore, puisque c'est toujours aux États-Unis, lorsqu'il s'agit du plus gros producteur de cinéma, on imagine les sommes en jeu pour ses avocats. Voir combien un homme comme celui-ci qui a abusé de dizaines et de dizaines de femmes, au lieu de rentrer un peu dans sa coquille et de se faire oublier un peu, finalement est toujours à l'attaque. Et vous voyez, ça traduit quelque chose de la nature humaine et de l'homme finalement, hein, parce que cet homme pense encore qu'il est victime d'une injustice quelque part.
Quoi qu'il en soit, il sera rejugé. Il y a très peu de chances qu'il soit évidemment acquitté. Il sera certainement condamné aussi dans ce second procès.
Bien évidemment, puisqu'il s'agit de vices de forme, comme vous disiez, et donc de nombreux témoignages de femmes n'ayant pas directement un lien direct avec les viols et les agressions sexuelles pour lesquelles Weinstein se retrouve aujourd'hui accusé. Et puis 16 années l'attendent en Californie après la peine qu'il prendra dans l'État de New York. Donc, bonne chance que l'on ne revoie pas cet homme pendant un bon moment.
Voilà.
Et on s'en portera pas plus mal.
Je crois.
Voilà. On vous retrouve à 23h et à minuit avec, là, ce soir, vu que vous partez en week-end, c'est multi-surprise.
Multi-surprise.
Feu d'artifice.
Celle de 23h est déjà prévue de longue date.
Voilà.
Avec le réalisateur Laurent Pellet qui en début de semaine m'a dit, il faut absolument que jeudi soir, tu mettes cette chanson-là.
Qui vous a aidé.
Qui m'a aidé, qui m'a vivement recommandé. Je ne vous cache pas que je vais suivre ses conseils. Donc, rendez-vous à 23h.
Vous pouvez, parce qu'il a, un goût vraiment très juste et certain pour la musique.
Ah, je confirme.
Vous pouvez vraiment grandement lui faire confiance à ce garçon, parce qu'il fait les trois quarts de la programmation de la Libre Antenne. Et donc, du coup, bien, nous sommes avec lui. Au carré, tranquille.
C'est vrai, vous avez raison.
Même si ce soir, pour la dernière fois de la semaine, c'est Esteva qui réalise l'émission.
aux côtés bien évidemment de son mentor, que je n'ai pas encore vu, qui est là, dans le coin. Mais voilà, nous sommes bien accompagnés ce soir.
Tout à fait.
À tout à l'heure, mon cher Maël.
À tout à l'heure.
Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une agréable journée, chers amis, et que vous êtes désormais bien rentrés à la maison. Et si ça n'est pas le cas, soyez prudents si vous êtes en voiture, si vous êtes dans les transports en commun. Sûrement avez-vous l'application Europe 1, grâce à l'application Europe 1, aux oreilles, l'écoute de vos émissions. Alors, un bon retour chez vous si vous n'êtes pas encore entré. Pour les autres, même combat et même régime. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. C'est la libre antenne, la dernière libre antenne de l'équipe de la semaine, avant de retrouver l'excellente Valérie Darmon et toute son équipe durant le week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Et comme vous l'a dit Maël Hassani, vous pouvez composez le 01 80 20 39 21 si vous désirez me parler. Vous pouvez aussi nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Vous pouvez nous adresser vos mails à libreantenne@europe1.fr ainsi que vos courriers à la Libre Antenne, Olivier Delacroix ou Valérie Darmon, Europe 1, 2 rue des Cévennes, 75 015 Paris. Et puis évidemment, vous pouvez aussi par notre groupe Facebook qui accueille aujourd'hui 13 nouveaux membres écrire à Julia et à Florian vos messages en privé, et ces deux jeunes gens vous répondront dans les plus brefs délais. Voilà, je suis ravi de passer cette soirée avec vous. Votre libre antenne du jeudi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Pour débuter cette émission, nous accueillons Magdelaine sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Magdelaine.
Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Magdelaine?
Oula, alors mon âge, j'ai à peu près, je suis une quadra bien passée, on va dire, bon, et je vous appelle de Paris.
D'accord. Alors, de quoi allons-nous parler, ma chère? Dites-moi.
Je crois qu'on va parler de cancer, de résilience et de joie de vivre.
Oui.
Et ça vous va?
Ça me va très bien. C'est un. Alors bon, j'allais vous dire c'est un parfait menu, mais on aurait bien enlevé le cancer, bien évidemment. Mais cette joie de vivre, vous allez nous en parler. C'est la vôtre. Le fait de pouvoir lister tout un tas de choses dont on a envie et l'envie. Renaissante aussi, c'est quelque chose dont vous allez nous parler. Mais alors, prenons, remontons le temps, Magdelaine. Vous avez quel âge au moment où vous apprenez que vous avez un cancer? Tout ça a commencé comment?
Ça a commencé en 2021, j'ai 45 ans. Donc du coup, vous allez pouvoir faire le calcul pour avoir mon âge d'aujourd'hui. et donc, en fait, j'ai été diagnostiquée, on va dire, à peu près par hasard, puisque au départ, je suis un peu confuse. Allez,
on compte 1, 2, 3, on prend son souffle.
1, 2, 3.
Voilà, et on recommence.
En fait, on m'a diagnostiqué un cancer par hasard, puisque j'avais une anémie, j'ai été hospitalisée pour une anémie et j'ai profité de ce moment pour montrer une boule que j'avais au sein.
Oui.
Et une boule qui s'est avérée être un cancer.
D'accord. Au moment où votre cancer est pris, il est à quel stade en fait? Il est développé? Il est comment?
Il est au stade le plus haut.
Au grade plus haut.
Le plus haut.
C'est-à-dire un stade 4.
Le plus élevé. Voilà. Donc voilà, il est à un stade avancé, on va dire, puisqu'il prend l'ensemble du sein.
D'accord.
Et il est agressif.
D'accord.
Il veut à peu près rien dire pour quelqu'un. En fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, quand on vous annonce un cancer, vous réfléchissez pas au grade, au stade et s'il est agressif ou non. On vous annonce un cancer c'est déjà.
Je vais vous poser plein de questions. D'abord parce que je suis curieux et puis parce que je suis particulièrement frappé depuis quelques jours par une histoire telle que celle-ci. Pas moi personnellement, hein, je rassure celles et ceux qui écoutent, mais quelqu'un de qui m'est très cher et très proche a appris il y a quelques jours un cancer grave, assez grave, en tout cas annoncé comme étant le plus haut. Et donc je vais vous poser tout un tas de questions parce que j'ai aussi besoin d'en connaître un peu plus et que votre expérience va peut-être m'amener des réponses et nous amener à nous toutes et à nous tous qui écoutons cette libre antenne quelques réponses. Quand vous êtes touché par ce cancer, vous êtes jeune, en tout cas considéré comme étant extrêmement jeune. Et on sait que le cancer, quand on l'a jeune, ça n'est pas un bon paramètre, hein, puisque il se développe généralement plus rapidement chez les personnes plus jeunes. Qu'en est-il pour vous à l'époque ?
En fait, moi, ce que je comprends, c'est que c'est quand même le diagnostic, il est grave. Alors, bien entendu, les médecins vont pas vous dire. Même si j'ai posé la question, à savoir quand est-ce que je vais mourir et est-ce que je vais mourir bientôt, personne n'a répondu à cette question, évidemment.
Oui, et ça, c'est plutôt bien, parce que...
C'est plutôt bien, ouais. Et puis la preuve, c'est qu'aujourd'hui, même si on m'avait dit « vous allez mourir bientôt », de toute façon, on va tous mourir. C'est oui. Le constat que j'ai fait aussi. C'est ce que je me suis dit aussi.
Et puis je crois aussi que aujourd'hui, les traitements... et les progrès qui ont été faits en termes de traitement sont tellement énormes que aucun médecin ne s'avancera, surtout quand c'est pris comme ça au début, à vous dire que vous allez mourir. Il y a toujours, je crois, une part de une zone un peu grise comme ça où on ne peut pas trop se prononcer, je suppose.
Je pense que déjà en tant que médecin, il vaut mieux ne pas se prononcer. Et puis il y a tellement d'autres paramètres qui font que moi par exemple, je sais que je me suis dit il faut que je sois dans un mood positif, il faut que je continue à vivre normalement, à faire comme si de rien n'était, puisque moi avant, en vérité, je me suis dit moi avant de me diagnostiquer le cancer, j'étais pas malade.
Vous n'étiez pas malade,
en fait. Il y avait cette boule, mais cette boule, elle n'a pas eu... Elle ne me gênait pas, j'étais en bonne santé. Et donc, je me suis dit, il n'y a pas de raison que je sois malade d'une minute à l'autre, en fait, entre le moment de la biopsie, par exemple... Et entre ce moment-là, l'avant et après, je suis toujours en bonne santé. Juste, on m'a diagnostiqué un cancer et je me suis dit, il faut rester dans ce mood-là. Il faut pas bader, en gros.
Oui.
Justement, pour être toujours dans un bon ressenti, dans
un bon feeling, comme si finalement il fallait absolument. J'essaie de traduire un peu ce que vous voulez me dire, mais rester dans ce bien-être qui était le vôtre à l'époque, en fait.
C'est ça. Et en plus, je me disais, ma part du travail, ça va être je suis entourée de bons médecins, on est en France, donc on est bien accompagnés, vous le disiez tout à l'heure, on est bien soignés.
Oui.
Et donc, du coup, moi, si tout le monde se met à tout faire pour que je m'en sorte, et si moi, de mon côté, je bade, je suis triste, etc., ça va pas faire avancer les choses. Donc, je me suis dit, pour l'instant, on va aller au bout du col, on va aller au bout du traitement.
Processus, oui.
Voilà, et on aura le temps d'ici là d'avoir une attitude négative. Enfin, je me disais vraiment, il faut mettre toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien. Et d'ailleurs, on dit souvent, le mood, l'état d'esprit aide aussi à la maladie. Elle ne soigne pas, on ne va pas se mentir. Ouais, parce que je me réveillais avec le sourire et la joie de vivre que j'ai guéri. C'est parce que j'ai eu une chimio, que j'ai eu des rayons, qu'on m'a fait une mastectomie, que je suis guérie. Oui.
Mais ça a dû participer
c'est le petit plus qui fait que... C'est l'assaisonnement dans un plat qui fait qu'on préfère ce plat à un autre, alors que de base, il y a les mêmes ingrédients.
Et vous avez eu la chance qu'il n'y ait pas de métastase ailleurs
Ah mais tellement.
Ah oui, il n'y en avait pas
tellement ailleurs. De chance. Oui. Il n'y en avait pas ailleurs. Et j'ai eu aussi de la chance d'avoir que un cancer hormonodépendant, parce qu'en fait il y a le triple négatif, par exemple.
Oui, c'est
le cancer du sein triple négatif, il est extrêmement violent. Donc dans mon malheur, on va dire, j'ai quand même eu la chance de ne pas avoir de métastases. C'était mon grand stress d'avoir des métastases, parce que en général quand il y a des métastases, c'est pas non plus rajoute un petit moins au diagnostic, quoi, en fait.
Oui, c'est certain que quand il y a des métastases, il faut s'armer, et ça veut dire que la chimio va être beaucoup plus dure, hein, parce que ça veut dire que le cancer a eu le temps de se développer et donc d'empoisonner, d'irradier, je ne sais pas comment on dit, mais d'autres parties du corps.
De se propager, quoi.
Oui. Cette saloperie de cancer. Alors, à partir du moment où on vous annonce tout ça, vous voulez donc, comme vous me l'avez dit, préserver ce bon mood, comme vous dites, hein, ce bon état d'esprit, puisque vous vous sentez bien et pas malade. Vont arriver, je suppose, les premiers traitements. Comment est-ce que vous réagissez aux premiers traitements ?
Alors, ça arrive hyper rapidement, les premiers traitements, parce qu'en fait, on prend le temps de nous poser le porte-à-quatre, c'est ce qui va permettre d'injecter la chimio. Et en fait... Je me souviens que le premier jour de la chimio, ma première chimio, en fait, c'est quand je me suis retrouvée à l'hôpital que je me suis rendu compte que j'étais... Enfin, où là, j'ai dit, ah ouais, ok, en fait, j'ai un cancer. Oui. Et donc, du coup, c'est l'injection, c'est quand le produit est rentré dans mon corps, où là, j'ai pris conscience que vraiment, j'étais malade. Ou en tout cas, j'avais une maladie et que je la soignais. Et donc, les premiers traitements... en plus, moi, j'ai eu une chimio inversée, parce que comme j'avais de l'anémie, on m'a fait la chimio hebdomadaire. Dès les premiers, ma première chimio, elle a été toutes les semaines, au lieu de toutes les trois semaines, selon certains protocoles. Et donc, c'était assez, malgré tout, assez violent, parce qu'on perd très vite nos cheveux. Enfin, moi, j'ai perdu très vite mes cheveux. J'avais les cheveux très longs.
Oui.
Et donc, au bout d'un moment, j'avais marre d'avoir des cheveux dans mon lit, dans mon assiette, j'avais des cheveux partout. Et donc, j'ai fini par les couper.
Oui.
Parce que c'était plus tenable. Et puis, je les perdais vraiment par poignée. Donc, aucun intérêt.
Je sais que c'est un détail qui marque quelques personnes qui sont touchées par le cancer. Le fait de perdre ses cheveux, c'est difficile.
Ben, en fait, c'est pas un détail, parce que je me suis rendu compte après le parcours que c'est la première question que j'ai posée à mon oncologue.
Oui, d'accord.
C'est est-ce que je vais perdre mes cheveux ? Et finalement, aujourd'hui, je me trouve tellement ridicule d'avoir posé cette question, parce que entre mourir d'un cancer et mourir chauve, enfin, l'idée. Enfin, je trouvais que la question, après, avec le recul, je trouve que la question a été un peu. Lunaire de demander à son oncologue est-ce que je vais perdre mes cheveux, alors qu'il est en train de dire que on a une maladie potentiellement potentiellement mortelle. Oui. Enfin bon, voilà. Bon, mais du coup, c'est pas du tout anecdotique de perdre ses cheveux, parce que c'est la marque visible de la maladie. Ça veut dire qu'au travail, on va commencer à mettre des foulards, on va commencer à mettre des perruques, et ça va commencer à se voir.
Oui.
Qu'on est malade, donc c'est pas forcément anecdotique, parce que justement c'est la marque de la maladie. On se dit ah tiens, et puis on se dit pas la personne elle est en chimio quand on connaît pas la maladie, on dit ah elle a un cancer, alors qu'en fait c'est pas la maladie qui fait qu'on perd nos cheveux,
c'est la chimio,
c'est le traitement
donc
mais voilà, ça nous stigmatise un peu plus.
Vous dites que vous avez été submergé par une urgence à vivre et que vous avez eu envie de rédiger la liste de vos envies.
Oui, parce que même si personne ne m'avait donné la date de ma mort, mon oncologue ne me l'a jamais donné, ma gynéco non plus, j'avais quand même, je me disais quand même dans le doute, hein. Cancer agressif, dernier stade, puis on voit qu'on dépérit quelque part, hein. c'est une guerre entre la maladie et nous, donc... je me suis dit, waouh, il y a quand même plein de choses que tu n'as pas faites. Ouais. En gros, tu te l'as coulé douce. Un peu comme les élèves au fond de la classe qui se rendent compte la veille que c'est le bac le lendemain. Donc, en gros, moi, je m'étais un peu laissée aller. Pas laissée aller dans la vie, mais enfin, voilà,
vous ne prenez pas conscience de la valeur de la vie, en fait.
C'est ça.
Mais bon... peut-on en vouloir ou peut-on s'en vouloir de à 40 ans, qui est somme toute un âge très jeune, de ne pas comme ça introduire dans nos pensées quotidiennes l'idée de la mort. Moi, je trouve ça assez sain, en fait. Ce n'est pas quelque chose dont il faut se charger, quoi. En fait, si tout va bien, bon. C'est comme ce que vous me disiez tout à l'heure, continuer à garder le bon mood, et bien ne pas penser à la mort obligatoirement quand on a 40 ans, c'est une manière peut-être de la repousser, ou en tout cas ça peut être considéré comme une sorte de superstition qui fait que on se dit tant qu'on n'y pense pas, elle va pas approcher, vous voyez.
Ouais, c'est exactement ça. Et puis en plus, dans ma tête, mais dans la tête de plein de gens, on meurt de vieillesse. Donc moi, la vieillesse, c'était vraiment dans très, 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 très longtemps, quoi.
Longtemps, 80, 90, 100 piges. Moi, je signe, hein, tout de suite.
Mais voilà. Et c'est surtout que, en fait, les personnes âgées, moi, à mon âge, dans les années 90, les gens qui avaient 50 ans, ils avaient 50 ans, mais de nos jours, enfin, c'est mon ressenti, hein. J'ai toujours l'impression d'être jeune, donc ma vieillesse, elle était retardée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bref, oui. J'étais jeune et j'avais pas de raison de m'inquiéter de la mort. Donc oui, après j'ai fait ma petite liste, disant si je devais mourir dans les 5 années à venir, puisque c'est un peu pronostic de récidive, etc. J'ai fait ma petite liste de choses que j'avais pas fait et que je trouvais dommage de mourir sans l'avoir fait. Mais c'est des choses très simples en plus, c'est pas et en même temps j'avais pas forcément envie de faire une liste un peu trop engageante. Justement, vous parliez de superstition en me disant mais si je la charge trop cette liste, ça va peut-être me porter l'œil. Donc j'ai fait une liste un peu une longue liste, mais quand même qui était pas trop
C'était réalisable, vous voulez dire?
Ah oui, tout était réalisable, à part peut-être certaines choses comme manger un truc chelou, genre des insectes. Si, c'est dommage de mourir et de ne pas avoir essayé de goûter ces trucs-là.
Ah
mais
oui,
en même temps, aujourd'hui, ça m'arrange d'être là, parce que je ne mangerai pas d'insectes. Mais voilà, c'était des petites choses. Et puis après, il y a des choses plus j'ai pas osé mettre des choses trop profondes non plus. Parce que justement,
profondes.
Je me suis pas. Enfin, je sais pas, moi, par exemple, j'ai pas d'exemple, mais des choses qui intellectuellement sont engageantes. Mm-hmm. Parce que justement, si j'ai pas le temps de les faire, ça m'aurait un peu frustré de pas pouvoir les faire, en fait.
D'accord.
J'essaie de me raccrocher à des choses un peu. De me dire, fais ta liste. Et puis cette liste, elle me permet aujourd'hui de me rappeler. Finalement, c'est peut-être ça le but de l'avoir fait à l'époque, c'est qu'aujourd'hui, je la reprends assez régulièrement pour faire les choses que j'avais notées. Et justement, ça me rappelle que peut-être aussi parfois, la vie peut être courte. Et qu'à l'époque, j'avais fait cette liste justement en me disant, il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre, peut-être. Et dans le doute, je fais cette liste et je vais la cocher. de temps en temps. Et là, et c'est vrai que ces derniers temps, parce qu'en plus, je suis toujours en soins, puisque j'ai eu une reconstruction il y a 10 jours, en fait.
Oui.
Ce qui explique que je suis un peu...
Ah oui, il y a 10 jours, voilà. D'accord. C'est tout neuf, là. D'accord.
C'est tout neuf. Tout est tout neuf.
D'accord.
Et je me suis rappelée de cette piste. Je l'avais un peu mise de côté, mais c'est de se dire, voilà... C'est super si on vit super longtemps, mais cette liste, elle me rappelle que à un moment donné dans ma vie, j'ai quand même eu une échéance et un timing qui m'a fait me poser des questions sur les choses simples qu'on devait faire dans la vie, quoi.
D'accord.
Je sais pas si je suis claire, en fait.
Très clair. Et dans cette liste, il y avait quoi, par exemple, concrètement ? Dites-moi.
Alors concrètement, dans cette liste, il y avait me faire. Je le dis en premier parce qu'en fait, je l'ai fait il y a pas longtemps. C'était me faire tirer le portrait à Montmartre. Parce que ça, c'est une chose. Je suis une Parisienne, je suis née à Paris et j'ai toujours voulu aller me faire tirer le portrait.
Ah oui.
Et en fait, voilà, je suis Parisienne, donc je vais très régulièrement à Montmartre et je me fais jamais tirer le portrait. C'est con en fait. C'est une envie.
D'accord.
C'est une envie qui est simple en fait. Il suffit de prendre le métro ou le bus. De se poser sur la chaise, de prendre 20 minutes, le gars il fait le portrait et on repart avec. Mais j'ai toujours eu envie de le faire et je ne l'avais pas fait. Et je me suis dit, bon ben ça c'est un truc simple à faire. Et donc je l'ai fait.
Oui.
Il y a pas si longtemps d'ailleurs, parce que je m'étais un peu, j'avais un peu mis de côté. Voilà, donc il y avait cette chose. Il y a aussi aller à New York. Parce que, voilà, je m'étais à New York et je trouvais que
vous
c'était
sympa. Vous ne connaissez pas New York encore, donc ?
Non.
Moi non
pas.
Plus. Moi non plus. Pourtant, j'ai beaucoup voyagé et je ne connais pas New York, donc, vous voyez.
Et vous me direz si c'est bien.
Ouais, vous me direz, ouais, carrément.
Ouais, ouais. Après, j'ai mis... me faire un nouveau tatouage, mais ça, c'est prévu. J'avais mis aussi regarder Titanic parce que je sais pas si je suis une des une des rares personnes, peut-être, je sais pas, mais en tout cas j'ai toujours pas vu Titanic.
Ah oui,
voilà.
D'accord.
Donc okay. c'est très con, hein. Je m'étais dit, tiens, c'est faut quand même que je vois si ce film vaut vraiment la peine d'être vu. Je dois aller aussi dîner à la Tour Eiffel, écrire ou finir d'écrire un livre. J'avais commencé, donc je vais finir.
Mm-hmm.
Monter sur scène et faire rire la galerie.
D'accord, ça vous avez entamé le travail pour ?
Oui, oui. Et ben maintenant, il faut que je me prenne en main et que j'ose.
Uh-huh.
Et j'avais mis aussi, alors ça c'est juste très personnel, mais j'avais mis voir JR sans lunettes. Voir JR, vous connaissez l'artiste JR qui a des lunettes noires ?
Non, je ne le connais pas.
C'est un artiste. Je pense que vous savez s'il a fait des grands portraits en noir et blanc, les photomatons géants.
Non, ça ne me dit rien.
Bon, c'est pas grave. Non. En tout cas, il a des lunettes noires tout le temps. Et depuis le début de toute ma vie, depuis 40 ans, il a des lunettes. Ça m'intrigue. Je me dis, tiens, j'aimerais bien voir ce gars sans lunettes.
D'accord.
Moi, c'est des petites choses. Vous voyez ce que je disais, c'est pas des choses essentielles à la vie, mais... voilà, c'était des choses un peu et à la fois un peu rigolotes et un peu simples de se dire j'avais mis dormir dans un hôtel, habiter dans une péniche, faire une soirée entre amis au coin du feu, enfin c'est des choses vraiment très, faire une partie de pêche.
D'accord.
Ça fait longtemps que j'ai pas pêché. Vous voyez, c'est des choses toutes simples en fait, de se dire en fait la vie c'est ces petites choses, ces petits moments doux, ces petits moments sympas qu'il faut multiplier pour être bien. En fait, c'est pas gagner des millions d'euros, d'être tout le temps au travail de 9h à 20h pour rien en fait, ou pour enfin, voilà. Et c'était ça en fait. J'avais envie de lister vraiment les choses simples, accessibles et qui font du bien.
Oui. D'accord.
Et ceux avec qui on les partage en fait.
Très bien.
C'était.
Non, mais
voilà,
très bien,
ma liste, elle est vraiment sauf en prétention.
Bon. Et vous avez commencé à. Par rapport à cette liste, alors vous vous êtes fait tirer le portrait, très bien. Mais il y a d'autres choses que vous avez entrepris ?
Eh ben oui, l'écriture d'un one-man show que j'ai commencé et que j'ai presque terminé, mais qu'il faut que je mette en scène. Enfin voilà, ça prend du temps aussi tout ça.
Oui.
Je travaille aujourd'hui sur un projet d'agenda. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est aussi en projet. Et j'ai aussi créé une association pour accompagner les personnes malades et les aidants. Que les aidants, on les oublie souvent, les pauvres, alors que ils vivent la maladie comme nous, avec la même intensité, on va dire. Et donc voilà, l'idée, c'est de les accompagner pendant la maladie et après la maladie, sur le champ professionnel. Parce que c'est mon corps de métier au départ.
D'accord.
J'accompagne les gens dans leur réinsertion. Mmh.
Là, vous êtes tout de même sur un chemin de guérison, si je comprends bien. Vous êtes c'est bien embarqué tout ça.
Bah, la rémission, on n'en parle qu'à partir de 5 ans, mais moi j'ai envie de dire que oui, je vais pas attendre 5 ans pour dire que je vais bien en fait voilà, de toute façon. Mes examens, pour l'instant, ça se passe bien. J'ai fait un PET scan il n'y a pas longtemps.
Oui.
Donc, pas de métastase. Donc, voilà, j'ai envie de dire, c'est une parenthèse et j'espère qu'elle ne va pas se rouvrir. Moi, je prends le parti de la fermer, cette parenthèse.
Oui.
Parce que ça fait partie aussi de mon état d'esprit. Voilà, on m'a dit que. Voilà, on m'a enlevé un sein. On me reconstruit là, donc je suis dans un mood de reconstruction, de nouveau départ. Et donc oui, je vais dire que je suis guérie. Même si officiellement il faut attendre encore quelques années pour être en rémission, mais bon.
Et oui. quelle est la part que vous attribuez justement au moral, en fait?
Ben, en fait, moi, je veux pas la part. Je vais pas. Je sais pas s'il y a une. On peut dire qu'il y a une. Si c'est 50-50. Parce que si c'était que notre mood. En plus, il y a quelque chose d'important, c'est que moi, j'ai pu avoir cette posture d'être dans un bon état d'esprit, d'être toujours positive, mais de dire que, admettons, c'est 50%. Si c'est 50%, ceux qui n'y arrivent pas, c'est aussi les mettre en difficulté. Enfin, je pense que c'est chacun à son niveau donne ce qu'il peut, mais je veux pas parce que c'est difficile de traverser un cancer. Il y a des gens qui peuvent pas garder, il y a des gens qui vont pas avoir cette énergie pour, en plus de ça, être positive. Donc, du coup, je trouve que de donner des. De dire, ben, c'est 50%, 20%, ben oui, mais ces gens qui n'y arrivent pas. Enfin, voilà. Pour moi, pour mon parcours, pour ce qui me concerne, je dirais que ça a permis que j'aille mieux.
Oui.
Mais de fait, c'est quand même. Alors, à part tirer, ce sont des gars qui font des années d'études pour être oncologue. Évidemment que c'est la chimio qui m'a guéri. Mais sauf que moi, j'étais dans un état d'esprit qui fait que j'ai pas eu trop d'effets secondaires. J'ai continué de travailler. J'allais, le lendemain de ma chimio, j'allais travailler. Donc j'étais dans un bon mood, mais c'est pas donné à tout le monde. Mmh. Moi je suis célibataire, j'avais pas d'enfant, donc j'avais pas en plus en rentrant chez moi à m'occuper de mes enfants, à expliquer à mes enfants que peut-être maman n'avait plus beaucoup à vivre. Moi j'avais pas la charge mentale qu'une femme mère de famille par exemple peut avoir aussi dans son parcours. Enfin, donc c'est, je pense que comme le protocole de soins, chacun vit comme il peut sa maladie avec ce qu'il a et ce qu'il est. Mmh. Et du coup, moi, je pense que j'ai eu cette chance de pouvoir vivre la maladie comme j'avais décidé de la vivre, parce que j'étais le seul. Il n'y avait que moi dans cette maladie. Vous voyez ?
Je comprends.
Mais quand vous êtes malade, vous avez des enfants, en bas âge, plus, ou pas en bas âge, un mari. Enfin, vous voyez, c'est, la maladie, elle, ça devient... Vous parliez de votre amie tout à l'heure.
Elle prend de l'ampleur, en fait. Elle ne touche plus que vous, mais elle touche des gens qui vous sont proches. D'ailleurs, je voulais vous demander, j'ai tourné... Alors, le hasard a fait que j'ai tourné pendant 3 jours là, pour, dans les yeux d'Olivier avec une jeune femme dont le destin était assez extraordinaire, une chanteuse qui avait connu le succès dans les années 2010, un succès fulgurant, et qui avait un peu brûlé la vie par tous les côtés, en fait. Et jusqu'à un moment, parce que là, je vois le chanteur, là, qui a tenté de se suicider ou je sais pas quoi, on nous a raconté plein de trucs, mais visiblement ça semble s'expliquer un peu. Il aurait joué avec une arme, il a tenté de se suicider, mais on voit Kenji là, c'est ça, Kenji Girac, oui. Qui on voit combien ces artistes ont du mal à gérer la notoriété, le rapport au public, le regard qu'on peut porter sur eux, l'argent, tout un tas de choses. Et cette jeune femme, c'est ce qu'elle a vécu, en fait. Jusqu'au moment où, à force de brûler la vie par tous les côtés, est arrivé un cancer du sein, justement, comme vous. Mmh. Et elle m'expliquait que cette épreuve-là, avec ce que vous me disiez tout à l'heure, hein, Magdalene, cet enjeu de perdre la vie, c'est-à-dire là, le mur, une fin en soi, quelque chose où on n'a plus le choix que de se battre pour ça, avait totalement changé sa vision de la vie et l'avait fait repartir comme si c'était opéré un reset total. On repart à zéro, pratiquement, c'est un nouveau départ. Est-ce que vous aussi, vous avez eu ce sentiment-là?
Bah évidemment, puisque oui j'ai c'est une deuxième chance, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme ce qui se passe avec tous les livres de développement personnel. Ta vie commence à partir du moment où tu prends conscience que t'en as qu'une. C'est un peu ça, en fait. C'est au moment où on vous annonce quelque chose de d'inévitable, qui est la mort. On peut pas la mort, c'est un non-retour. Et quand on vous dit que ce non-retour il potentiellement il est très proche, ben ça remet en cause un milliard de choses. Oui. Et notamment un nouveau départ, c'est-à-dire que le nouveau départ, il est pas non plus c'est pas je me lève le matin et ça y est, je change de vie. C'est très dilué. Parce que la première chose qui arrive en tête quand on nous annonce un cancer, c'est le combat. Moi, j'étais en mode guerrière. Je me suis entourée de personnes, et d'ailleurs, je salue les personnes qui m'ont entourée, mes amis, etc. Je me suis entourée des meilleurs que des gens qui étaient dans un bon mood, qui étaient pas là pour me rendre. Enfin voilà, il y a toujours des gens, par exemple, oui, qui vont me dire ah, t'es au courant, oui. T'as vu un tel est mort, oui bon c'est bon, ça va faire la nécrologie de tous les morts du cancer de la semaine. Donc vraiment j'étais très entourée. Et dans un premier temps c'est le combat. On veut guérir, donc on se bat pour vivre justement. Et après vient le changement. C'est plus profond, le changement. C'est pas au moment de l'annonce où on switch, en fait. C'est toutes les semaines après, les mois après, les années après, où on opère, hein, où on voit les choses différemment. Mm-hmm. Et du coup, on évolue aussi. La vie, elle a un meilleur goût.
La vie a un meilleur goût. Réellement.
Mmh. Et oui, ça a une autre saveur. Les petits temps que les mots gentils que vos amis vous envoient, ou les moments simples mais plein de bienveillance, ça vaut tout. Moi, je vais dire ça aujourd'hui, je devrais peut-être pas, mais j'ai eu la chance maintenant. Et quand je vous dis que c'est une réflexion qui vient, moi, on m'a licencié 5 jours avant mon retour.
Oui.
Et ben aujourd'hui, alors je ne vous cache pas que j'avais les nerfs, en vrai.
Oui, je me doute.
Voilà. Mais avec le recul, c'est un bien, enfin c'est un mal pour un bien. Parce que sinon, j'aurais continué à faire des horaires de 8h jusqu'à 20h pour...
Oui.
Voilà. Donc, évidemment que je suis énervée, évidemment que je ne vais pas laisser passer. Mais ceci dit, dans ma vie, c'est aussi une manière de dire, ouais, ben ralentis. Tu as bossé pendant toute ta chimio. 5 jours avant ton retour, c'est merci, mais au revoir. Et ben du coup, là, ça me permet aussi de ne pas retourner dans un engrenage.
Oui,